Chapitre 10. Un ministre de la façon de Madame de Staël, les Roland. Gilbert n'avait pas revu la reine depuis le jour où celle-ci, l'ayant prié de l'attendre un instant dans son cabinet, l'y avait laissé pour écouter le plan politique que M. de Breteuil rapportait de Vienne et qui était conçu en ces termes: faire de Barnave comme de Mirabeau, gagner du temps, jurer la Constitution, l'exécuter littéralement pour montrer qu'elle est inexécutable, la France se refroidira, s'ennuiera, les Français ont la tête légère, il se fera quelques modes nouvelles et la liberté passera. Si la liberté ne passe pas, on aura gagné un an et dans un an, nous serons prêts à la guerre. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette époque. La liberté n'avait point passé et il était évident que les souverains étrangers étaient en train d'accomplir leurs promesses et se préparaient à la guerre. Gilbert fut étonné de voir entrer un matin chez lui le valet de chambre du roi. Il pensa d'abord que le roi était malade et l'envoyait chercher, mais le valet de chambre le rassura. Il lui dit qu'on le demandait au château. Gilbert insista pour savoir qui le demandait, mais le valet de chambre, qui sans doute avait des ordres, ne se départit pas de cette formule « on vous demande au château ». Gilbert était profondément attaché au roi. Il plaignait Marie-Antoinette plus encore comme femme que comme reine. Elle ne lui inspirait ni amour ni dévouement. Il n'éprouvait pour elle qu'une profonde pitié. Il se hâta d'obéir. On l'introduisit dans l'entresol où l'on recevait Barnave. Une femme attendait dans un fauteuil et se leva en voyant paraître Gilbert. Gilbert reconnut Madame Élisabeth. Pour celle-là, il avait un profond respect, sachant tout ce qu'il y avait d'angélique bonté dans son cœur. Il s'inclina devant elle et comprit à l'instant même la situation. Le roi, dit la reine, n'avait osé l'envoyer chercher. En leur nom, on mettait Madame Élisabeth en avant. Les premiers mots de Madame Élisabeth prouvèrent au docteur qu'il ne se trompait point dans ses conjectures. « Monsieur Gilbert, dit-elle, je ne sais si d'autres ont oublié les marques d'intérêt que vous avez données à mon frère lors de notre retour de Versailles, celles que vous avez données à ma sœur lors de notre arrivée de Varennes, mais moi, je m'en souviens. » Gilbert s'inclina. « Madame, dit-il, Dieu a décidé dans sa sagesse que vous auriez toutes les vertus, même celles de la mémoire, vertus rares de nos jours et surtout chez les personnes royales. » « Vous ne dites pas cela pour mon frère, n'est-ce pas, monsieur Gilbert? Mon frère me parle souvent de vous et fait grand cas de votre expérience. » « Comme médecin ? » demanda en souriant Gilbert. « Comme médecin, oui, monsieur. Seulement, il croit que votre expérience peut s'appliquer en même temps à la santé du roi et à celle du royaume. »« Le roi est bien bon, madame, dit Gilbert. Pour laquelle des deux santés me fait-il appeler en ce moment ?» « Ce n'est pas le roi qui vous fait appeler, monsieur, » dit Madame Élisabeth, en rougissant un peu, car ce cœur chaste ne savait point mentir. « C'est moi. »«
C'est vous, madame ?» demanda Gilbert. « Oh, ce n'est pas votre santé qui vous tourmente, au moins. Votre pâleur est celle de la fatigue et de l'inquiétude, mais non, celle de la maladie. »«
Vous avez raison, monsieur, ce n'est point pour moi que je tremble, c'est pour mon frère. Il m'inquiète. »«
Moi aussi, madame, » répondit Gilbert.
« Oh, notre inquiétude ne vient probablement pas de la même source, » dit Madame Élisabeth. « Je veux dire qu'il m'inquiète comme santé. »«
Le roi serait-il malade ?»«
Non, pas précisément, » répondit Madame Élisabeth, « mais le roi est abattu, découragé. Tenez, voilà aujourd'hui 10 jours, je compte les jours, vous comprenez, voilà aujourd'hui 10 jours qu'il n'a prononcé une seule parole, si ce n'est avec moi et dans sa partie de tric-trac habituelle, où il est obligé de prononcer les mots indispensables au jeu. Il y a aujourd'hui 11 jours, dit Gilbert, qu'il s'est présenté à l'Assemblée pour lui signifier son veto. Pourquoi n'est-il pas devenu muet le matin de ce jour-là, au lieu de prendre la parole le lendemain ?
« Votre avis était-il donc, s'écria vivement Madame Élisabeth, que mon frère dut sanctionner ce décret impie ?
Mon avis est, madame, que mettre le roi en avant des prêtres dans le courant qui vient, contre la marée qui monte, contre l'orage qui gronde, c'est vouloir que roi et prêtre soient brisés du même coup. Mais à la place de mon pauvre frère, que feriez-vous, monsieur ?
« Madame, il y a en ce moment un parti qui grandit, comme ces géants des mille et d'une nuits, qui, enfermés dans un vase, ont, une heure après que le vase est brisé,
sans couder de hauteur. Vous voulez parler des Jacobins, monsieur ?
Gilbert secoua la tête.
Non, je veux parler de la Gironde. Les Jacobins ne veulent pas la guerre. La Gironde le veut. La guerre est nationale. Mais la guerre à qui, mon Dieu ? À l'empereur, notre frère ? Au roi d'Espagne, notre neveu ? Nos ennemis, monsieur Gilbert, sont en France et non pas hors de France. Et la preuve...
Madame Élisabeth hésita.
« Dites, madame, reprit Gilbert, je ne sais en vérité si je puis vous dire cela, docteur, quoi que ce soit pour cela que je vous ai fait venir.
Vous pouvez tout me dire, madame, comme un homme dévoué et prêt à donner sa vie au roi.
« Monsieur, dit madame Élisabeth, croyez-vous qu'il existe un contrepoison ? »
Gilbert sourit.
« Universel, non, madame. » Seulement chaque substance vénéneuse a son antidote, quoique, en général, il faut le dire, ces antidotes soient presque toujours impuissants.
Oh mon Dieu ! Il faudrait d'abord savoir si le poison est un poison minéral ou végétal. D'habitude, les poisons minéraux agissent sur l'estomac et les entrailles, les poisons végétaux sur le système nerveux, que les uns exaspèrent et que les autres stupéfient. De quel genre de poison voulez-vous parler, madame ?
« Écoutez, je vais vous dire un grand secret, monsieur. »«
J'écoute, madame. »«
Eh bien, je crains qu'on empoisonne le roi. »«
Qui voulez-vous qui se rende coupable d'un pareil crime ?»«
Voilà ce qui est arrivé. Monsieur Laporte, l'intendant de la liste civile, vous savez ?»«
Oui, madame. » »«
Eh bien, monsieur Laporte nous a fait prévenir qu'un homme des offices du roi, qui s'était établi pâtissier au palais royal, allait rentrer dans les fonctions de sa charge que lui rendait la mort de son survivancier. Eh bien, cet homme, qui est un jacobin effréné, a dit tout haut que l'on ferait grand bien à la France en empoisonnant le roi.
Oh, en général, madame, les gens qui veulent commettre un pareil crime ne s'en vantent pas d'avance.
Oh, monsieur, ce serait si facile d'empoisonner le roi. Par bonheur, celui dont nous nous défions n'a pas dans le palais d'autres détails de bouche que celui de la pâtisserie.
Alors, vous avez pris des précautions, madame.
Oui, il a été décidé que le roi ne mangerait plus que du rôti, que le pain serait apporté par monsieur Thierry de Ville-d'Avray, intendant des petits appartements qui se charge en même temps de fournir le vin. Quant aux pâtisseries, comme le roi les aime, madame Campan a reçu l'ordre d'en acheter, comme pour elle, tantôt chez un pâtissier, tantôt chez un autre. On nous a recommandé surtout de nous défier du sucre râpé.
Est-ce qu'on peut y mêler de l'arsenic sans qu'on s'en aperçoive ?
Justement, c'était l'habitude de la reine de sucrer son eau avec ce sucre. Nous l'avons complètement supprimé. Le roi, la reine et moi mangeons ensemble. Nous nous passons de toute personne de service. Si l'un de nous a quelque chose à demander, il sonne. C'est madame Campan qui, dès que le roi est à table, apporte, par une entrée particulière, la pâtisserie, le pain et le vin. On cache tout cela sous la table et on a l'air de boire le vin de la cave et de manger le pain et la pâtisserie de service. Voilà comme nous vivons, monsieur. Et cependant, nous tremblons à chaque instant, la reine et moi, de voir tout à coup pâlir le roi et de lui entendre prononcer ces deux mots terribles. « Je souffre.
Laissez-moi vous affirmer d'abord, madame, dit le docteur, que je ne crois pas à ces menaces d'empoisonnement.
Mais ensuite, je ne m'en mets pas moins entièrement au service de leur majesté. Que désire le roi ? Le roi veut-il me donner une chambre au château ? J'y resterai de manière à ce qu'à tout instant, on m'y trouve, jusqu'au moment où ses craintes...
« Oh, mon frère ne craint rien, reprit vivement madame Élisabeth.
« Je me trompe, madame, jusqu'au moment où vos craintes seront passées. J'ai quelques pratiques, des poisons et des contrepoisons. Je me tiendrai prêt à les combattre, de quelque nature qu'ils soient. Mais permettez-moi d'ajouter, madame, que si le roi voulait, on n'aurait bientôt plus rien à craindre pour lui.
« Oh, que faut-il donc faire pour cela ? » dit une voix qui n'était pas celle de madame Élisabeth et qui, par son timbre vibrant et accentué, fit retourner Gilbert.
Le docteur ne se trompait pas, cette voix, c'était celle de la reine. Gilbert s'inclina.
« Madame, dit-il, ai-je besoin de renouveler à la reine les protestations du dévouement que je faisais tout à l'heure à madame Élisabeth ?
« Non, monsieur, non, j'ai tout entendu. Je voulais seulement savoir dans quelle disposition vous êtes encore à notre égard. »
La reine a douté de la solidité de mes sentiments.
Oh, monsieur, tant de têtes et tant de cœurs tournent dans ce vent de tempête que l'on ne sait vraiment plus à qui se fier. Et c'est pour cela que la reine va recevoir de la main des feuillants un ministre façonné par madame de Staël. La reine tressaillit. Vous savez cela, dit-elle. Je sais que votre majesté est engagée avec monsieur de Narbonne. Et vous me blâmez, sans doute? Non, madame, c'est un essai comme un autre. Quand le roi aura essayé de tout, peut-être finira-t-il par où il eût dû commencer. Vous avez connu madame de Staël, monsieur? Demanda la reine. J'ai eu cet honneur, madame. En sortant de la Bastille, je me suis présenté chez elle, et c'est par monsieur Necker que j'ai su que c'était à la recommandation de la reine que j'avais été arrêté. La reine rougit visiblement, et puis, avec un sourire, nous avons promis de ne point revenir sur cette erreur. Oh, je ne reviens pas sur cette erreur, madame, je réponds à une question que votre majesté me faisait la grâce de m'adresser. Que pensez-vous de monsieur Necker? C'est un brave Allemand, composé d'éléments hétérogènes, et qui, en passant par le baroque, s'élève jusqu'à l'emphase. Mais n'êtes-vous pas de ceux qui avaient poussé le roi à le reprendre? Monsieur Necker était, à tort ou à raison, l'homme le plus populaire du royaume. J'ai dit au roi, sire, appuyez-vous sur sa popularité. Et madame de Staël? Sa majesté me fait, je crois, l'honneur de me demander ce que je pense de madame de Staël. Oui. Mais comme physique, elle a le nez gros, les traits gros, la taille grosse. La reine sourit. Femme, il ne lui était pas désagréable d'entendre dire d'une autre femme dont on s'occupait beaucoup qu'elle n'était pas belle. Continuez, dit-elle. Sa peau est d'une qualité médiocrement attirante. Ses gestes sont plutôt énergiques que gracieux. Sa voix est rude parfois à faire douter que c'est celle d'une femme. Avec tout cela, elle a 24 ou 25 ans, un cou de déesse, de magnifiques cheveux noirs, des dents superbes, un œil plein de flammes. Son regard est un monde. Mais au moral, comme talent, comme mérite, se hâta de demander la reine. Elle est bonne et généreuse, madame. Pas un de ses ennemis ne restera son ennemi après l'avoir entendu parler un quart d'heure. Je parle de son génie, monsieur. On ne fait pas de la politique seulement avec le cœur. Madame, le cœur ne gâte rien, même en politique. Quant au mot « génie » que votre majesté a prononcé, soyons avares de ce mot, madame. Madame de Staël a un grand et immense talent, mais qui ne s'élève pas jusqu'au génie. Quelque chose de lourd, mais de fort, d'épais, mais de puissant, pèse à ses pieds quand elle veut quitter la terre. Il y a d'elle à Jean-Jacques, son maître, la différence qu'il y a du fer à l'acier. Vous parlez de son talent comme écrivain, monsieur. Parlez-moi un peu de la femme politique. Sous ce rapport, à mon avis, madame, répondit Gilbert, on donne à madame de Staël beaucoup plus d'importance qu'elle n'en mérite. Depuis l'émigration de Mounier et de Lally, son salon est la tribune du parti anglais, semi-aristocratique avec les deux chambres. Comme elle est bourgeoise, et très bourgeoise, elle a la faiblesse d'adorer les grands seigneurs. Elle admire les Anglais parce qu'elle croit le peuple anglais un peuple éminemment aristocrate. Elle ne sait pas l'histoire d'Angleterre. Elle ignore le mécanisme de son gouvernement, de sorte qu'elle prend pour des gentilshommes du temps des croisades, des nobles d'hier, épuisés incessamment en bas. Les autres peuples, avec du vieux, font parfois du neuf. L'Angleterre, avec du neuf, fait constamment du vieux. Vous croyez que c'est en raison de ce sentiment-là que madame de Staël nous propose Narbonne? Ah, cette fois, madame, deux amours sont combinés, l'amour de l'aristocratie et l'amour de l'aristocrate. Vous croyez que madame de Staël aime monsieur de Narbonne à cause de son aristocratie? Ce n'est pas à cause de son mérite, j'imagine. Mais nul n'est moins aristocrate que monsieur de Narbonne, on ne connaît même pas son père. Ah, parce qu'on n'ose pas regarder du côté du soleil. Voyons, monsieur Gilbert, je suis femme, aimant les caquets par conséquent. Que dit-on de monsieur de Narbonne? Mais on dit qu'il est roué, brave, spirituel. Et je parle de sa naissance. On dit que quand le parti jésuite fit chasser Voltaire, Marchaud, d'Argenson, ceux qu'on appelait les philosophes enfin, il lui fallut lutter contre madame de Pompadour. Or, les traditions du régent étaient là. On savait ce que peut l'amour paternel doublé d'un autre amour.
Alors on choisit, les jésuites ont la main heureuse pour ces sortes de choix, madame, alors on choisit une fille de roi, et l'on obtint d'elle qu'elle se dévouât à l'œuvre incestueusement héroïque. De là, ce charmant cavalier, dont on ignore le père, comme dit votre majesté, non point parce que sa naissance se perd dans l'obscurité, mais parce qu'elle se fond dans la lumière. Ainsi, vous ne croyez pas, comme les Jacobins, comme M. de Robespierre, par exemple, que M. de Narbonne sorte de l'ambassade de Suède ? Suffit, madame, seulement il sort du boudoir de la femme et non du cabinet du mari. Supposez que M. de Staël soit pour quelque chose là-dedans, ce serait supposer qu'il est le mari de sa femme. Mon Dieu, non, ce n'est point une tradition d'ambassadeur, madame, c'est une faiblesse d'amant. Il ne faut pas moins que l'amour... ce grand, cet éternel fascinateur, pour pousser une femme à mettre aux mains de ce roué frivole la gigantesque épée de la Révolution. Parlez-vous de celle qu'a baisée M. Isnard au club des Jacobins ? Hélas, madame, je parle de celle qui est suspendue au-dessus de votre tête. Ah donc, à votre avis, M. Gilbert, nous avons tort d'accepter M. de Narbonne comme ministre de la guerre ? Vous feriez mieux, madame, de prendre tout de suite celui qui lui succédera. Et qui donc ? Dumouriez. Dumouriez ? Un officier de fortune ? Ah, madame, voilà le grand mot lâché. Et encore, vis-à-vis de celui qu'il frappe, est-il injuste ? Monsieur Dumouriez n'a-t-il pas été simple soldat ? Monsieur Dumouriez, je le sais bien, madame, n'est pas de cette noblesse de cour à laquelle on sacrifie tout. Monsieur Dumouriez, noble de province, ne pouvant ni obtenir ni acheter un régiment, s'est engagé comme simple hussard. À 20 ans, il s'est fait hacher de coups de sabre par 5 ou 6 cavaliers plutôt que de se rendre, et malgré ce trait de courage, malgré une intelligence réelle, il a langui dans les grades inférieurs. Son intelligence, oui, il l'a développée en servant d'espion à Louis XV. Pourquoi appeler en lui espionnage ce que vous appelez diplomatie chez les autres ? Je sais bien qu'à l'insu des ministres du roi, il entretenait une correspondance avec le roi. Quel est le noble de cour qui n'en eût pas fait autant ? Mais monsieur, s'écria la reine, trahissant sa profonde inquiétude de la politique par les détails dans lesquels elle entrait, c'est un homme essentiellement immoral que celui que vous me recommandez. Il n'a nul principe, aucun sentiment d'honneur. Monsieur de Choiseul m'a dit à moi que Dumouriez lui avait présenté 2 projets relatifs aux Corses, un pour les asservir, l'autre pour les délivrer. C'est vrai, madame, mais monsieur de Choiseul a oublié de vous dire que le premier fut préféré et que Dumouriez se battit bravement pour le faire réussir. Le jour où nous accepterons monsieur Dumouriez pour ministre, ce sera comme si nous faisions une déclaration de guerre à l'Europe. « Eh, madame, dit Gilbert, la déclaration est faite dans tous les cœurs. Savez-vous ce que les registres de ce département donnent de citoyens inscrits pour partir volontairement ? 600 000. Dans le Jura, les femmes ont déclaré que tous les hommes pouvaient partir, et que, si on voulait leur donner des piques, elles suffiraient à garder le pays. « Vous venez de prononcer un mot qui me fait frémir, madame, dit la reine. » Excusez-moi, madame, reprit Gilbert, et dites-moi quel est ce mot pour qu'il ne m'arrive plus un pareil malheur. Vous venez de prononcer le mot de pique. Oh, les piques de 89, monsieur. Je vois encore les têtes de mes 2 pauvres gardes du corps au bout de 2 piques. Et cependant, madame, c'est une femme, une mère, qui a proposé d'ouvrir une souscription pour faire fabriquer des piques. Est-ce aussi une femme et une mère qui a fait adopter par vos Jacobins le bonnet rouge couleur de sang ? Voilà encore où votre majesté est dans l'erreur, répondit Gilbert. On a voulu consacrer l'égalité par un symbole. On ne pouvait pas décréter que tous les Français porteraient un costume pareil. On adopta pour plus de facilité une partie seulement de ce costume, le bonnet des pauvres paysans. Seulement, on préféra la couleur rouge, non pas parce que c'est la couleur sombre du sang, mais au contraire parce que le rouge est gai, éclatant, agréable à la foule. C'est bien, docteur, dit la reine, je ne désespère pas, tant vous êtes partisan des inventions nouvelles, de vous voir un jour venir tâter le pouls du roi avec la pique à la main et le bonnet rouge sur la tête.
et, moitié railleuse, moitié amère, voyant qu'elle ne pouvait sur aucun point entamer cet homme, la reine se retira. Madame Élisabeth s'apprêtait à la suivre, mais Gilbert, d'une voix presque suppliante, « Madame, dit-il, vous aimez votre frère, n'est-ce pas ?»« Oh, dit Madame Élisabeth, ce n'est pas de l'amour que j'ai pour lui, c'est de l'adoration. » « Et vous êtes disposé à lui transmettre un bon conseil, un conseil venant d'un ami, n'est-ce pas ?»« Oh, dites, si le conseil est véritablement bon, à mon point de vue, il est excellent. Alors parlez, parlez. Eh bien, c'est quand son ministère feuillant sera tombé, ce ne sera pas long, de prendre un ministère tout entier coiffé de ce bonnet rouge qui fait si grand peur à la reine. » Et saluant profondément Madame Élisabeth, il sortit. Nous avons rapporté cette conversation de la reine et du docteur Gilbert pour interrompre le cours, toujours un peu monotone, d'un récit historique et pour montrer un peu moins sèchement que dans un tableau chronologique la succession des événements et la situation des parties. Le ministère Narbonne dura 3 mois. Un discours de Vergniaud le tua. De même que Mirabeau avait dit « Je vois d'ici la fenêtre », Vergniaud, à la nouvelle que l'impératrice de Russie avait traité avec la Turquie et que l'Autriche et la Prusse avaient signé le 7 février à Berlin un traité d'alliance offensive et défensive, Vergniaud, montant à la tribune, s'écria « Et moi aussi, je puis le dire de cette tribune, je vois le palais où se trame la contre-révolution et l'on prépare les manœuvres qui doivent nous livrer à l'Autriche. » Le jour est venu où vous pouvez mettre un terme à tant d'audace et confondre les conspirateurs. L'épouvante et la terreur sont souvent sorties de ce palais dans les temps antiques au nom du despotisme, que l'épouvante et la terreur y rentrent aujourd'hui au nom de la loi. » Et par un geste puissant, le magnifique orateur sembla chasser devant lui les deux filles échevelées de la peur et de l'effroi. Elles rentrèrent en effet aux Tuileries, et Narbonne, élevée par un souffle d'amour, fut renversée par un souffle de tempête. Cette chute avait lieu vers le commencement de 1792. Aussi, 3 mois à peine après l'entrevue de la reine avec Gilbert, un homme petit de taille, leste, dispos, nerveux, à la tête spirituelle où étincelaient des yeux pleins de flammes, âgé de 56 ans, quoiqu'il parût 10 ans de moins, le visage couvert de teintes brunes des bivacs, était-il introduit chez le roi Louis XVI. Il était vêtu de l'uniforme de maréchal de camp. Il ne resta qu'un instant seul dans le salon où il avait été introduit. Bientôt la porte s'ouvrit et le roi entra. C'était la première fois que les deux personnages se trouvaient en face l'un de l'autre. Le roi jeta sur le petit homme un regard terne et lourd, qui n'était pas néanmoins exempt d'observation. Le petit homme fixa sur le roi un œil scrutateur plein de défiance et de feu. Personne n'était resté là pour annoncer l'étranger, ce qui prouvait que l'étranger avait été annoncé d'avance. « C'est vous, monsieur Dumouriez ?» dit le roi. Dumouriez s'inclina. « Depuis quand êtes-vous à Paris ?»« Depuis le commencement du mois de février, sire. »« C'est monsieur de Narbonne qui vous a fait venir ?» Pour m'annoncer que j'étais employé à l'armée d'Alsace sous le maréchal Luckner et que j'allais commander la division de Besançon. Vous n'êtes point parti, cependant. Sire, j'ai accepté, mais j'ai cru devoir faire cette observation à monsieur de Narbonne que la guerre étant prochaine, Louis XVI tressaillit visiblement, et menaçant d'être général, continua Dumouriez sans paraître remarquer ce tressaillement, je croyais qu'il était bon de s'occuper du midi où l'on pouvait être attaqué au dépourvu, qu'en conséquence il me semblait urgent de faire un plan pour la défense du midi et d'y envoyer un général en chef et une armée. Oui, vous avez donné votre plan à monsieur de Narbonne après l'avoir communiqué à monsieur Jansonnet et à plusieurs membres de la Gironde. Monsieur Jansonnet est mon ami, sire, et je le crois comme moi un ami de votre majesté. « Alors, dit le roi en souriant, j'ai affaire à un Girondin. Vous avez affaire, sire, à un patriote, fidèle sujet de son roi. » Louis XVI mordit ses grosses lèvres. « Et c'est pour servir plus efficacement le roi et la patrie que vous avez refusé la place de ministre des Affaires étrangères par intérim ?»« Sire, j'ai d'abord répondu que je préférais à un ministère par intérim ou sans intérim le commandement qui m'avait été promis. » Je suis un soldat et non un diplomate.
On m'a au contraire assuré que vous êtes l'un et l'autre, monsieur, dit le roi.
On me fait trop d'honneur, sire.
Et c'est sur cette assurance que j'ai insisté.
Oui, sire, et que j'ai, moi, continué à refuser, malgré mon grand regret, de vous désobéir.
Et pourquoi refusez-vous?
Parce que la situation est grave, sire. Elle vient de renverser monsieur de Narbonne et de compromettre monsieur de Lessard. Tout homme qui se croit quelque chose a le droit ou de ne pas se laisser employer ou de demander qu'on l'emploie selon sa valeur.
Or, sire, je vaux quelque chose ou je ne vaux rien. Si je ne vaux rien, laissez-moi dans mon obscurité. Qui sait pour quel destin vous m'en feriez sortir?
Si je vaux quelque chose, ne faites pas de moi un ministre d'un jour, un pouvoir d'un instant, mais donnez-moi sur quoi m'appuyer pour qu'à votre tour vous puissiez vous appuyer sur moi.
Nos affaires, pardon si votre majesté voit que je fais de ces affaires les miennes,
nos affaires sont en trop grande défaveur en pays étranger pour que les cours puissent traiter avec un ministre intérimaire.
Cet intérim, excusez la franchise d'un soldat.
Rien n'était moins franc que Dumouriez, mais dans certaines circonstances, il tenait à le paraître.
Cet intérim serait une maladresse contre laquelle s'élèverait l'Assemblée, ce qui me dépopulariserait près d'elle.
Je dirais plus, cet intérim compromettrait le roi qui aurait l'air de tenir à son ancien ministère et qui semblerait n'attendre qu'une occasion d'y revenir.
Si c'était mon intention, vous croyez donc que la chose me serait impossible, monsieur?
Je crois, sire, qu'il est temps que votre majesté rompe une bonne fois avec le passé.
Oui, et que je me fasse jacobin, n'est-ce pas? Vous avez dit cela à la porte.
Ma foi, si votre majesté faisait cela, elle embarrasserait bien tous les partis, et peut-être les jacobins plus qu'aucun autre.
Pourquoi ne me conseillez-vous pas tout de suite de mettre le bonnet rouge?
Eh, sire, si c'était un moyen, dit Dumouriez.
Le roi regarda un instant avec une certaine défiance l'homme qui venait de lui faire cette réponse, puis il reprit
« Ainsi c'est un ministère sans intérim que vous voulez, monsieur.
Je ne veux rien, sire, je suis prêt à recevoir les ordres du roi. Seulement, j'aimerais mieux que les ordres du roi m'envoyassent à la frontière que de me retenir à Paris.
Et si je vous donnais au contraire l'ordre de rester à Paris et de prendre définitivement le portefeuille des affaires étrangères, que diriez-vous?
Dumouriez sourit.
Je dirais, sire, que votre majesté est revenue des préventions qu'on lui avait inspirées contre moi.
Eh bien oui, entièrement, monsieur Dumouriez, vous êtes mon ministre.
Sire, je me dévoue à votre service, mais
des restrictions?
Des explications, sire.
Dites, je vous écoute.
La place du ministre n'est plus ce qu'elle était autrefois. Sans cesser d'être le fidèle serviteur de votre majesté, en entrant au ministère, je deviens l'homme de la nation.
Ne me demandez donc pas, à partir d'aujourd'hui, le langage auquel vous ont habitué mes prédécesseurs.
Je ne saurais parler que selon la liberté et la Constitution.
Renfermé dans mes fonctions, je ne vous ferai point ma cour, je n'en aurai point le temps, et je romprai toute étiquette royale pour mieux servir mon roi.
Je ne travaillerai qu'avec vous ou au conseil, et je vous le dis d'avance, sire, ce travail sera une lutte.
Une lutte, monsieur, et pourquoi?
Oh, c'est bien simple, sire. Presque tout votre corps diplomatique est ouvertement contre-révolutionnaire. Je vous engagerai à le changer, je contrarierai vos goûts dans les choix, je proposerai à votre majesté des sujets qu'elle ne connaîtra pas même de nom, d'autres qui lui déplairont.
Et dans ce cas, monsieur, interrompit vivement Louis XVI,
dans ce cas, sire, quand la répugnance de votre majesté sera trop forte, trop motivée, comme vous êtes le maître, j'obéirai.
Mais si vos choix vous sont suggérés par votre entourage, et me semblent visiblement faits pour vous compromettre, je supplierai votre majesté de me donner un successeur.
Sire, pensez au danger terrible qui assiège votre trône. Il faut le soutenir de la confiance publique. Sire, elle dépend de vous.
Permettez que je vous arrête, monsieur.
Sire, et Dumouriez s'inclina.
Ces dangers, j'y ai songé depuis longtemps.
Et puis, étendant la main vers le portrait de Charles Ier,
et continua Louis XVI en essuyant son front avec son mouchoir,
je voudrais les oublier que voici un tableau qui m'en ferait souvenir.
Sire,
Attendez, je n'ai pas fini, monsieur. La situation est la même, les dangers sont donc pareils. Peut-être l'échafaud de Whitehall se dressera-t-il sur la place de grève.
C'est voir trop loin, sire.
C'est voir à l'horizon, monsieur. En ce cas, je marcherai à l'échafaud, comme y a marché Charles Ier, non point peut-être en chevalier comme lui, mais du moins en chrétien. Poursuivez, monsieur.
Dumouriez s'arrêta, assez étonné de cette fermeté à laquelle il ne s'attendait pas.
« Sire, dit-il, permettez-moi de conduire la conversation sur un autre terrain. »«
Comme vous voudrez, monsieur, répondit le roi, mais je tiens à prouver que je ne crains pas l'avenir, comme on veut me le faire craindre, ou que, si je le crains, du moins, j'y suis préparé. »«
Sire, dit Dumouriez, malgré ce que j'ai eu l'honneur de vous dire, dois-je toujours me regarder comme votre ministre des Affaires étrangères ?»«
Oui, monsieur. »«
Alors, au premier conseil, j'apporterai 4 dépêches. » Je préviens le roi qu'elles ne ressembleront en rien, ni pour le principe, ni pour le style, à celles de mes prédécesseurs. Elles conviendront aux circonstances. Si ce premier travail agrée à votre majesté, je continuerai. Sinon, sire, j'aurai toujours mes équipages prêts pour aller servir la France et mon roi à la frontière. Et quoi que l'on ait dit à votre majesté de mes talents en diplomatie, ajouta Dumouriez, c'est mon véritable élément et l'objet de mes travaux depuis 36 ans. Sur quoi il s'inclina pour sortir.
Attendez, dit le roi, nous voici d'accord sur un point, mais il en reste 6 autres à arrêter.
Mes collègues, oui, je ne veux pas que vous veniez me dire que vous êtes empêché par tel ou tel. Choisissez votre ministère, monsieur.
Sire, c'est une grave responsabilité que vous me donnez là.
Je crois servir vos désirs en vous en chargeant.
Sire, dit Dumouriez, je ne connais personne à Paris, à part un nommé Lacoste, que je recommande à votre majesté pour la marine.
Lacoste, dit le roi, n'est-ce pas un simple commissaire ordonnateur?
Oui, sire, qui a donné sa démission à monsieur de Boisne plutôt que de participer à une injustice.
C'est une bonne recommandation. Et pour les autres, dites-vous?
Je consulterai, sire.
Puis-je savoir qui vous consulterez?
Brissot, Condorcet, Pétion, Rodereur, Jansonnet,
toute la Gironde, enfin.
Oui, sire.
Allons, va pour la Gironde. Nous verrons si elle s'en tire mieux que les constitutionnels et les feuillants.
Puis il reste encore une chose, sire.
Laquelle?
À savoir si les 4 lettres que je vais écrire vous conviendront.
C'est ce que nous saurons ce soir, monsieur.
Ce soir, sire?
Oui, les choses pressent. Nous aurons un conseil extraordinaire qui se composera de vous, de monsieur de Graaf et de Caillé de Gerville.
Mais du port du Tertre?
Il a donné sa démission.
Je serai ce soir aux ordres de sa majesté.
Et Dumouriez salua pour prendre congé.
Non, dit le roi, attendez un instant, je veux vous compromettre.
Il n'avait pas achevé que la reine et madame Élisabeth parurent.
Elles tenaient leur livre de prière à la main.
Madame, dit le roi à Marie-Antoinette, voici monsieur Dumouriez, qui promet de nous bien servir et avec lequel nous allons arrêter ce soir un nouveau ministère.
Dumouriez s'inclina, tandis que la reine regardait avec curiosité ce petit homme qui devait avoir tant d'influence sur les affaires de la France.
« Monsieur, dit-elle, connaissez-vous le docteur Gilbert ?»«
Non, madame, répondit Dumouriez.
« Eh bien, faites sa connaissance, monsieur. »«
Puis-je savoir à quel titre la reine me le recommande ?»«
Comme un excellent prophète, il y a 3 mois qu'il m'a prédit que vous seriez le successeur de monsieur de Narbonne. »
En ce moment, on ouvrit les portes du cabinet du roi qui allait à la messe. Dumouriez sortit à sa suite.
Tous les courtisans s'écartèrent de lui comme d'un pestiféré.
« Quand je vous le disais, lui souffla le roi en riant, vous voilà compromis.
« Vis-à-vis de l'aristocratie, sire, répondit Dumouriez, c'est une nouvelle grâce que le roi daigne me faire. »
Et il se retira.